Les titres du journal.
À Aigle, la création de l'espace événement des Glariers a franchi une nouvelle étape hier. Le conseil communal a accepté le projet esquissé par l'exécutif, mais les coûts plus élevés que prévu ont suscité plusieurs interrogations. Pro Vélo Riviera veut tracer une grande voie cyclable entre Vevey et Villeneuve. L'idée est déjà dans l'air depuis l'an dernier. Pour la concrétiser, l'association met sur pied un groupe de travail intercommunal. L'obligation pour les employeurs d'annoncer les postes vacants aux ORP semble bien fonctionner. Depuis sa mise en œuvre, les patrons ont bien joué le jeu. En revanche, les débouchés pour les chômeurs ne se remarquent pas encore. En football, Lausanne a gommé la division qu'il séparait de Neuchâtel hier soir. Les Vaudois se sont imposés 6-0 contre Xamax, validant grâce à cette magnifique victoire leur billet pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse.
La météo avec Abri-Feu à Ride, votre spécialiste en extincteurs et matériel de sécurité. Abri-Feu.ch.
Selon Météo Suisse, le ciel va devenir très nuageux avec l'arrivée de nouvelles précipitations dans le courant de l'après-midi. La limite des chutes de neige s'élèvera de 2200 mètres à 2800 mètres, puis redescendra à 2600 mètres en soirée. Pour les températures, il fera au maximum 14 degrés à Verneuilla, 15 à Sion, et on attend au mieux 12 degrés à Villars-sur-Ollon. Il fera 7 à 2000 mètres. Et pour demain samedi, le temps sera le plus souvent nuageux avec des précipitations fréquentes. La limite des chutes de neige se situera entre 2300 mètres et 2600 mètres. Samedi, s'abaissant dimanche à 2000 mètres, puis à 1500 mètres le soir. Durant le week-end, on attend un vent du sud-ouest fort à tempétueux en montagne. Et pour les températures, on attend entre 10 et 16 degrés en plaine et entre 10 et 13 degrés à 1000 mètres. La météo complète est à 6 jours sur notre site internet radiochablais.ch. Et le journal de midi nous est présenté par Quentin Fray. Bonjour Quentin.
Bonjour Martine, bonjour à toutes et tous. Aigle fait un pas de plus vers la construction d'une grande salle multifonction. Le crédit de construction de l'espace événement des Glariers a été accepté hier par les deux tiers du conseil communal. Le vote s'est déroulé à bulletin secret. Il faut dire que les discussions ont été vives, aussi bien sur des points de détail comme les flux de personnes au sein du bâtiment que sur les raisons d'être de l'édifice en général. Les coûts ont aussi fait grincer des dents. Cette salle est estimée à 24,7 millions de francs alors qu'un premier préavis visait un budget de 16,5 millions. Les explications d'Isabelle Rime, municipale en charge des bâtiments.
Le préavis qui avait été accepté par le conseil communal était un préavis pour justement mettre en route le concours ainsi qu'un avant-projet. On s'est rendu compte effectivement qu'on avait peut-être été un peu trop optimiste ce jour-là, enfin comme le rapporteur nous l'a bien expliqué, et quand nous avons sorti les 5 lauréats du concours, on s'est rendu compte que si on répondait vraiment au cahier des charges avec les 180 places en parking souterrain, on dépassait largement les 24 millions. Donc, il faut bien savoir que le projet qui a gagné le concours est celui qui, économiquement, est le meilleur marché.
Ces explications n'ont pas convaincu certains membres de la commission chargée d'étudier le projet. Co-auteur d'un rapport de minorité, l'élu de l'Entente Aiglonne, Philippe Belvalde, appelait à renvoyer le dossier à la municipalité.
Le concours est parti sur une base qui est correcte. Il y avait un cahier des charges qui avait été fait par des professionnels. Il y avait un premier estimatif qui avait été fait. Et vous l'avez entendu aujourd'hui, la municipalité qui dit « Ouais, l'estimatif, il était malheureusement un peu trop bas ». Mais enfin, je veux dire, si c'est une partie intégrante d'une condition, eh bien, il fait partie intégrante d'une condition. Donc, normalement, le concours n'aurait pas dû... Il aurait peut-être pu donner un premier prix pour remercier, en fait, le travail fait. Mais, en fait, il n'aurait jamais dû rentrer dans cette salle du conseil. Et à mon avis, c'est simplement, on a attendu 3 ans pour faire oublier aux gens une condition qui est très importante sans apporter un plus au projet. Et ça, c'est malheureux.
Au final, la population aura le dernier mot. Le conseil communal a accepté à la quasi-unanimité de soumettre ce projet au référendum spontané. Le vote pourrait intervenir en février. C'était un sujet réalisé par Hélène Yost.
Pro Vélo Riviera a imaginé une voie rapide d'une vingtaine de kilomètres.
L'idée d'une grande piste cyclable agréable et sécurisée entre Villeneuve et Vevey a germé au sein de l'association il y a environ 1 an et demi. Après des réflexions en interne, l'association est passée à la vitesse supérieure. Pour raffiner le projet, elle a sollicité des élus des 5 communes situées sur le tracé. Ils doivent se rassembler pour constituer un groupe de travail. Les précisions de Fabrice Hierli, membre du comité de Pro Vélo Riviera.
Toutes les communes ont au moins un représentant. Bien sûr, pour trouver une date qui fonctionne pour tout le monde, ce n'est pas facile. Tout le monde ne pourra pas être là à la première séance. On va essayer d'organiser les agendas des 2-3 autres séances qui vont suivre pour avoir un maximum de présence.
Et qui sont ces représentants ?
Nous avons vraiment ouvert la participation à toutes les représentations politiques. Nous ne voulions pas que ce projet soit l'apanage d'un seul parti. Et on a été très contents d'avoir des réponses qui viennent de différentes tendances politiques de l'échiquier des communes concernées.
Et concrètement, quelles sont vos ambitions avec ce groupe de travail ?
Notre ambition, elle est d'arriver à transformer cette idée en une prochaine étape. Et cette prochaine étape, ça pourrait être, par exemple, une motion commune déposée entre les différentes communes, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir une continuité. Hein, si on a un projet qui est fait d'une manière sur une commune et d'une autre manière sur l'autre, hein, du coup, ça risque de pas jouer. Voir quelque chose qui permette d'aboutir sur un avant-projet, on ne sait pas encore jusqu'où on peut aller.
Et vu que c'est une route cantonale, enfin par tronçon, j'imagine, est-ce que c'est pas aussi avec le canton qu'il faut voir ça ?
Oui, bien sûr. Notre espoir est, dans le groupe de travail peut-être, si tout va bien, d'avoir un représentant de la DGMR. Et à nouveau, pour la première séance, nous, ce qu'on comptait, c'était déjà un petit peu trouver comment s'organiser pour aller de l'avant, comment définir un peu un cadre et un objectif précis. On va arriver avec des propositions, bien sûr. Et puis ensuite, d'inviter les personnes et les organisations complémentaires qu'il nous faudra avoir sur place. On aura de toute façon au niveau cantonal un représentant de l'ATE, bon c'est pas une autorité cantonale, mais l'association Transport et Environnement Vaud sera là pour aussi nous aider et peut-être aussi bon, voilà, trouver les bons partenaires à inviter.
Donc il y aurait une partie effectivement de cette voie qui consisterait en fait à aménager les chaussées existantes, mais il y aurait aussi beaucoup d'endroits où il faudrait construire, enfin créer des chaussées.
Il faudra faire des choix. À certains endroits, ça pourrait être peut-être simplement déplacer quelques places de parc, hein, mais là, ça sera des négociations à faire parce que ça serait une manière de faire de la place. Ou alors peut-être de devoir faire des aménagements. C'est vraiment dans tout ce genre de circonstances qu'il faudra pouvoir discuter avec les autorités compétentes. Et évaluer différentes options et choisir celles qui sont à la fois pertinentes en termes d'efficacité, probablement aussi pas trop chères. Enfin voilà, il y a toutes sortes de critères qui vont entrer en ligne de compte.
C'était des propos recueillis par Valentine Zenker. Le groupe de travail se rencontrera pour la première fois le 27 novembre. Notons enfin que les communes concernées sont Villeneuve, Veto, Montreux, La Tour de Paix et Vevey.
Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse a pris possession du Vortex hier.
La caisse de pension de l'État de Vaud lui a officiellement remis les clés de ce complexe situé à côté de l'Uni, la Chavanne Pré-Renon. Après 29 mois de travaux, le bâtiment qui accueillera la totalité des délégations de ces JOJ 2020 est fin prêt, mais vide. Plus de 800 bénévoles ont retroussé leurs manches aujourd'hui pour monter les meubles qui serviront aux athlètes. Il s'agira ensuite de mettre le Vortex à l'épreuve. Virginie Fèvre, présidente du comité d'organisation des JOJ Lausanne 2020.
Oui, il sera aussi testé demain suite au montage. Ben, on sera prêt à dormir dedans. Donc les équipes vont rester, vont se doucher en même temps, utiliser le wifi en même temps pour justement se mettre en condition réelle parce que forcément les jeunes rentreront de leur compétition. Enfin, on sait qu'il y a des heures de rush et puis voilà. Donc ensuite, on croise les doigts pour que tout fonctionne. Puis sinon, on a encore le temps de travailler sur les derniers détails pour être bon pour accueillir les 1880 athlètes, leur staff, toutes les délégations ici en janvier.
Et lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse, c'est effectivement plus de 1800 athlètes et leur staff qui seront logés au sein du Vortex. Une fois en main de la Fondation Maison pour étudiants Lausanne et de l'UNIL, la capacité sera d'environ 1000 personnes. Le conseiller d'État Pascal Broulis explique d'où vient cette différence.
Il y a des chambres qui sont à un lit aujourd'hui et des chambres qui seront à deux lits provisoirement pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse, puisque l'idée c'est aussi que les jeunes cohabitent avec d'autres athlètes, d'autres sportifs dans la même chambre. Donc c'est aussi vivre en communauté. On retombe avec le village ici à Lausanne dans le concept initial des Jeux. À l'époque, les athlètes qui étaient sélectionnés pour les Jeux Olympiques faisaient la durée complète des Jeux. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Les athlètes viennent uniquement pour leur discipline. Quand c'est fini, ils repartent. Tandis que là, les jeunes auront à dormir sur ce site, mais aussi à suivre le programme complémentaire lié au volet culturel des Jeux Olympiques de la Jeunesse.
Ce programme culturel, vous pouvez donner un peu plus de détails sur son contenu ?
Formation, réflexion sur qu'est-ce qu'un athlète aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait après avoir fini sa période d'athlète de compétition, la question qui touche à des paris truqués, au comportement, à la vie en quelque sorte, la cohabitation entre sa carrière d'athlète et puis la vraie vie, celle de tous les jours où on vit avec son métier, avec sa famille, etc. Des programmes qui touchent aussi à la culture ou comportemental, donc c'est ce que le CIO a demandé, et Lausanne va être aussi expérimentale pour compléter tout le dispositif. On est au cœur de l'université, à côté de l'IPFL et des hautes écoles, et donc c'est aussi un moyen de valoriser ça sur le volet culturel et formation des Jeux Olympiques de la Jeunesse.
Et au total, le Vortex a coûté plus de 156 millions de francs. Il sera officiellement inauguré en automne 2020.
Le concept Colombe Art, né en 1985, continue d'attirer les artisanes et les artisans.
Ils sont 25 cette année à avoir pris leur quartier au cycle d'orientation des Pereres à Murat. Ce rendez-vous bisannuel permet de saisir l'étendue de la créativité des habitants de la région et des alentours. Bijoux, poterie ou encore tableaux faits en perles. Chaque objet est original et peut être acheté auprès de son auteur. Une sorte de marché de Noël avant l'heure. Jimmy Delaloy, président du groupe des artistes et artisans de Colombey-Murat, qui organise l'événement.
Ça tombe bien, ces vacances de la Toussaint, on se profile un peu pour Noël. Et puis, plus on approche des fêtes, plus le porte-monnaie de la clientèle diminue. Donc, il faut joindre l'utile à l'agréable. On profite du centre scolaire aussi. Merci à la commune de Colombey-Murat en passant. Et puis, vous trouvez ici ce que vous ne trouvez pas dans les supermarchés à l'approche des fêtes.
On a souvent cette impression que tout ce qui est artisanal, tout ce qui est fait main, c'est cher. Ça se vérifie ici à Colombard ?
C'est clair que vous prenez tous les artistes, vous leur demandez est-ce que vous en sortez avec le prix, ils vont tous vous dire non. Un artisan ne peut pas calculer les heures, calculer ce qu'il a acheté, et puis dire voilà, mon prix ce sera tant. Sinon, il peut fermer boutique, il ne va jamais vendre. L'artisan, il fait ça par passion, il ne fait pas ça pour sa caisse. Seule la passion l'habite.
Jimmy Delaloy répondait à Hélène Yost. Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir Colombard, rendez-vous donc à Murat jusqu'à dimanche. L'entrée est gratuite. Le SECO tire un bilan positif de l'obligation faite aux employeurs d'annoncer à l'avance aux ORP certains de leurs postes vacants. La mesure avait été introduite le 1er juillet 2018 et selon le secrétariat d'État à l'économie, en un an, 200 000 postes à repourvoir ont ainsi été signalés aux priorités aux chômeurs. Deux points noirs sont toutefois relevés. La plateforme qui répertorie les postes vacants est peu utilisée et le taux d'embauche de sans-emploi par ce biais n'est que de 8%. Mais malgré cela, le SECO se dit satisfait. On écoute son chef de la direction du travail, Boris Durcher.
Tout d'abord, on a beaucoup plus de postes vacants qui ont été annoncés, presque le triple de ce qui était attendu initialement quand on a introduit cette obligation d'annonce des postes vacants. Le deuxième point, cette mesure est acceptée. D'un côté par les employeurs, je dirais majoritairement acceptés. De l'autre côté par les agences privées qui sont sur le marché du travail, mais aussi par les demandeurs d'emploi. Donc c'est essentiellement ces deux points qui nous permettent de dire « Ok, l'administration n'a pas tout fait mal dans ce cadre de cette mise en place, de cette obligation d'annonce de postes vacants ».
Cette mesure en faveur de la main-d'œuvre indigène a été décidée par le Parlement suite à l'adoption de l'initiative de l'UDC contre l'immigration de masse. Depuis l'été 2018, l'immigration est en très nette baisse, le chômage aussi. Faut-il alors en déduire que l'obligation d'annoncer les postes vacants a fait son effet ? On retrouve Boris Turcher.
Bien sûr, on a profité d'une très bonne situation sur le marché du travail, aussi une réduction substantielle de l'immigration les derniers deux ans. Mais est-ce que ça a à faire avec cette obligation d'annonce des postes vacants ? Ça, on ne peut pas le dire aujourd'hui. Pour ça, il faudra effectuer encore des études supplémentaires qui vont être effectuées au cours de l'année prochaine.
C'était des propos recueillis par Serge Jubin. Deux adaptations importantes à partir du 1er janvier prochain sont à prévoir. Le taux de chômage dans une profession qui provoque l'obligation d'annoncer les postes vacants passe de 8 à 5% et l'administration fédérale a revu la nomenclature des professions soumises à l'exigence d'annonce des postes vacants. La soirée d'Halloween a entraîné son lot de farces et de déprédations hier soir en terre d'Uricoise notamment. La police est intervenue une soixantaine de fois dans la bourgade de Dzumikon. Une trentaine de jeunes ont mis le feu à un conteneur et lancé des cailloux et des œufs sur les policiers. Pour l'essentiel, les incidents liés à Halloween se sont limités justement à des jets d'œufs contre des façades et des voitures ainsi qu'à du tapage nocturne dans l'ensemble du canton. Dans certains cas, des adolescents ont poursuivi des personnes pour les effrayer. À l'étranger, la situation sanitaire s'aggrave dans la capitale indienne. Yeux irrités, gorge sèche et brouillard toxique, New Delhi traverse aujourd'hui l'un de ses pics de pollution atmosphérique extrême. La qualité de l'air s'est violemment dégradée cette semaine dans la mégapole de 20 millions d'habitants, poussant un organisme de lutte contre la pollution à qualifier la situation d'état d'urgence sanitaire. Selon cet organisme, les conséquences sanitaires seront néfastes sur tous, et plus particulièrement sur les enfants. Par conséquent, les autorités ont ordonné la fermeture des écoles et des chantiers jusqu'à mardi. Les pétards sont également interdits pour tout l'hiver. Et le Pakistan a commencé tôt ce matin à ensevelir les premières victimes du dramatique incendie d'un train. Pendant ce temps, des dizaines de familles attendaient dans l'angoisse des nouvelles des disparus. Les causes de l'incendie qui s'est déclaré hier matin ont été attribuées à l'explosion accidentelle de bonbonnes de gaz. Alors que des passagers se préparaient un repas à bord du train, selon les autorités, l'accident a coûté la vie à au moins 74 personnes. En tennis, Stan Wawrinka ne verra ni les quarts de finale à Paris, ni les Masters de Londres. Éliminé en huitième par Rafael Nadal, le Vaudois a perdu tout espoir de terminer parmi les huit meilleurs du monde cette saison. Hier soir, le Suisse n'a pas démérité contre l'Espagnol, mais ce dernier s'est montré plus fort mentalement dans les moments clés. Il a signé un break par manche pour l'emporter 6-4-6-4. Nadal défiera ce soir le Français Joe Wilfried Tsonga.
En football, Lausanne a fait exploser Xamax hier soir en huitième de finale de la Coupe Suisse.
Leader de Challenge League, les Vaudois ont atomisé les Neuchâtelois 6-0 à la Pontaise. Supérieur dans le jeu, le LS a envoyé un message à la concurrence. Il veut rapidement retrouver l'élite du football helvétique. Il faudra pour cela continuer de carburer dans le deuxième échelon et éviter tous les pièges, à commencer par le déplacement à Chiasso ce dimanche. Pablo Iglesias, directeur sportif du Lausanne Sport.
Il y a tous les scénarios probables, c'est-à-dire le premier contre le, pour le moment, la Lanterne Rouge. Ensuite, sur un terrain difficile, je crois qu'ils annoncent de la pluie pratiquement tout le week-end. Donc voilà, on a privé Stade, je profite au passage pour priver Stade de jouer chez lui sur un magnifique terrain à Samaranch. Mais par contre, on autorise d'autres clubs à jouer dans des conditions un peu différentes. C'est toujours assez surprenant. Mais c'est le match piège par référence, parce que même s'il n'y a pas d'euphorie, hein, je crois que la leçon de l'année dernière, elle a fait mal, mais elle a fait plus mal de ne pas être monté puis de pouvoir se mesurer aujourd'hui justement à Neuchâtel ou peut-être avoir avec Servette ou avec d'autres. Mais le problème, il est là, c'est de jouer dans une catégorie où on peut offrir ce genre de match, parce qu'il y a deux équipes qui essayent de jouer. Mais comme vous êtes venu contre Winterthur, vous viendrez encore contre Krien certainement, et contre d'autres équipes qui, elles, bah, déjà le match nul suffit, bah, ça ne donne pas le même spectacle. Ça, faut être conscient.
Des propos recueillis par nos confrères de LFM. Au prochain tour de Coupe de Suisse, le LS aura droit à un autre défi de taille puisqu'il accueillera Bâle, actuel deuxième de Super League. Dans l'autre match de la soirée, fin de parcours pour le FC Bulle du Chablaisien Pierre-Alain Suard. Les Gruyériens ont été battus 3-2 par la formation de Rapperswil. Cette dernière recevra Sion en quart de finale. Lucerne défiera IB, tandis que Winterthur jouera face à Bavois. Ces affiches sont prévues les 3 et 4 mars 2020. Et enfin, un mot de rugby. Petit lot de consolation pour la Nouvelle-Zélande. Privée de finale par l'Angleterre, les All Blacks ont remporté la médaille de bronze de la Coupe du Monde. Lors de la petite finale, les Néo-Zélandais sont venus à bout du Pays de Galles sur le score de 40-17. Demain, les Anglais joueront pour le titre face à l'Afrique du Sud.
Merci Quentin.
L'actualité régionale se poursuit sur la page Facebook Radio Chablais Actu.